Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. L'euro est-il trop fort ? Depuis 2003, l'euro est coté bien au-dessus du dollar et plusieurs phénomènes économiques rendent la question plus urgente actuellement, puisque l'euro atteint des sommets à l'heure où nous parlons. Il est juste en dessous d'un dollar 60, soit le double de sa cotation en 2002. La croissance économique américaine n'est plus garantie, ni celle de l'économie européenne. Et l'inflation mine actuellement le moral économique de la zone euro. Alors pourquoi l'euro est-il trop fort et selon quels critères peut-on affirmer cela vis-à-vis du dollar, vis-à-vis de l'économie réelle européenne? Et que faire pour que l'euro trouve une valeur raisonnable? Trois économistes autour de la table de Canal Académie. Philippe Jorgensen, qui est professeur d'économie à Sciences Po et que nous connaissons bien à Canal Académie. Bonjour, monsieur Jorgensen.
Bonjour, Priscille.
Jean-Marc Vittori, éditorialiste au quotidien Les Échos. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Robert Raymond, ancien directeur général de l'Institut monétaire européen, la maison mère de la BCE, en quelque sorte.
Bonjour, mais oui, c'est un peu cela.
Bonjour,
c'était
monsieur
le temps
Raymond.
De la préparation.
Alors, monsieur Raymond, commençons par vous. Selon quels critères est-ce qu'on peut estimer que l'euro est trop fort? Est-ce que c'est uniquement par rapport au dollar?
Précisément, la question « l'euro est-il trop fort ?» ne peut être éclairée que si on se réfère à l'objectif qu'on a en tête vis-à-vis du dollar. Et si, par exemple, le désir, c'est d'aider l'économie américaine à réduire son endettement extérieur, à inonder moins en dollars les banques centrales d'Asie ou des producteurs de pétrole, alors il faut que le dollar soit faible pour permettre aux États-Unis d'exporter davantage et pour peser sur les importations des États-Unis de façon à les aider à rétablir leur équilibre commercial. Le commerce extérieur n'est d'ailleurs pas tout, il faut aussi penser au mouvement de capitaux, mais certainement une période de faiblesse du dollar est un des éléments d'ajustement des grands déséquilibres qui affectent les économies mondiales aujourd'hui. Si on se place d'autres points de vue, c'est-à-dire le point de vue, par exemple, d'Airbus, il est évident que la surévaluation de l'euro par rapport à la parité des pouvoirs d'achat gêne les exportations, rend Airbus moins compétitif ou oblige la société productrice à réduire ses marges. Donc il y a des bénéficiaires, il y a des perdants, mais rien de tout cela n'est une machination ou une affaire politique. Le taux de change, c'est le résultat de l'offre et de la demande. Et l'offre et la demande, ce sont des êtres humains, ce ne sont même pas des gouvernements, ce sont des êtres humains, ce sont des investisseurs ou des emprunteurs.
Jean-Marc Vittori, est-ce que l'euro est surévalué même par rapport à l'économie réelle européenne? Marc Toiti parle de bulle euro.
La formule me paraît pour l'instant excessive. Ce qu'il y a, c'est que, comme le disait Robert Raymond, il n'y a pas de valeur objective de l'euro face notamment au dollar. Il y a des conventions en matière monétaire et puis il y a des équilibres de marché. Et ensuite, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Donc c'est certain que pour beaucoup d'industriels européens, actuellement, l'euro est trop fort, ils ont du mal. L'exemple d'Airbus est tout à fait parlant. Louis Gallois, qui préside EADS, qui possède Airbus, dit que quand le dollar perd 10 centimes face à l'euro, ses résultats sont plombés d'un milliard d'euros, ce qui est absolument colossal. Donc à cet égard, oui, l'euro vaut trop cher. Si on regarde l'équilibrage financier international, et notamment ce qu'il faudrait pour que les États-Unis rééquilibrent leurs comptes, et encore pas tout à fait totalement, et si seul l'euro portait la charge de ce rééquilibrage, les économistes du CEPI, un centre d'études prospectives, avaient fait un calcul tout à fait intéressant. Ils disaient, si seul l'euro porte le rééquilibrage des comptes américains, il faudrait que l'euro vaille 3,24 dollars. C'est-à-dire qu'on en serait très très loin. Donc tout dépend, par rapport à quel objectif on se pose la question ? Par rapport à l'économie européenne, par rapport aux industriels européens, clairement l'euro est trop cher. Par rapport aux consommateurs, c'est tout différent. Moi, je pars aux États-Unis en vacances la semaine prochaine, l'euro n'est pas assez cher pour moi. Moi, ça m'arrangerait que d'ici la semaine prochaine, l'euro passe à 2 dollars, ça diminuerait encore le coût de mes vacances.
Philippe Jürgensen, est-ce qu'il y a des avantages à ce que l'euro soit fort, comme on dit ? Et qu'est-ce que pour vous l'euro fort ?
Ce que dit Jean-Marc Vittori est tout à fait vrai. Lorsqu'on voyage, on est bien content d'avoir un euro fort dans ses poches. Et lorsqu'on importe aussi, il ne faut pas oublier que l'euro fort il permet au prix de l'essence à la pompe d'être nettement moins élevé que si l'euro était plus faible. On est impressionné par un prix du baril de pétrole à 110 dollars. C'est vrai que c'est extrêmement élevé, mais en euros, ça fait que 70 euros.
Ça absorbe une partie de la hausse
si
des prix.
Si on calcule le baril en euros il y a 5 ans et le baril aujourd'hui, l'écart n'est pas du tout le même que le baril en dollars à l'époque et le baril aujourd'hui. Ça a considérablement réduit le surcoût, même s'il y a un surcoût bien sûr, mais ça a considérablement réduit la facture pétrolière pour nous. Alors donc ça a des avantages. Cela dit, moi je serais peut-être plus tranché que mes deux amis ici. Je trouve quand même que globalement l'euro est trop fort. Il y a des avantages, on vient de le dire, mais je trouve que les inconvénients l'emportent, parce que bien sûr, il n'y a pas qu'Airbus, il y a tous nos exportateurs. Et on sent le poids de cet euro très élevé sur notre commerce extérieur. Alors c'est vrai qu'en sens inverse, malgré cet euro fort, les Allemands, eux, réalisent un excédent extérieur colossal. Ils n'ont jamais eu un aussi grand excédent extérieur, alors que l'euro n'a jamais été aussi cher. Enfin, si, il a été aussi cher dans le passé, il y a 10 ou 15 ans, mais enfin, en tout cas, n'a pas été aussi cher depuis longtemps.
Mais l'Allemagne
donc, tout n'est pas dû à ça.
La plupart de son commerce en dehors de la zone euro.
Non, pas plus que nous.
Non,
et d'ailleurs,
pardon.
C'est un des éléments.
C'est le contraire. C'est l'Allemagne qui réalise justement une partie de son commerce extérieur dans la zone euro, du coup.
Oui, mais aussi ailleurs. Par exemple, l'Allemagne est très compétitive en Chine. Elle arrive à vendre aux Chinois des machines parce qu'elle a une très bonne spécialisation, des produits de très haute qualité. Et tout le monde sait bien que la solution pour nous, c'est ça aussi. C'est d'avoir les bonnes spécialisations et de progresser en gamme, de progresser en qualité, d'innover. Ça, c'est clair. Donc, je pense que globalement, l'euro cher a quand même actuellement de gros inconvénients. C'est un frein sur la croissance. On voit que trimestre après trimestre, la croissance est amputée de quelques dixièmes de points par le fait que notre commerce extérieur se détériore. Et donc, de notre point de vue, à nous, Français en tout cas, mais ça peut être différent si on raisonne et qu'on est allemand, mais de notre point de vue de Français, l'euro est clairement trop cher. Je dirais même d'un point de vue économique général quand même, parce que ces calculs valent ce qu'ils valent, mais les économistes essayent de calculer un taux de change d'équilibre. Alors, il y a tout bêtement la parité de pouvoir d'achat. Il y a des journaux qui publient l'indice du McDonald's dans le monde entier. Mais si on fait des calculs un peu plus raffinés, on trouve un taux de change d'équilibre. Alors, ça peut être le taux de change d'équilibre comportemental. On peut être très raffiné sur tout ça. Mais en gros, c'est entre un 10, un 20 dollars par euro, pas un 60. Donc, il y a quand même, à mon avis, une surévaluation. Les Allemands y résistent beaucoup mieux que nous. Mais même eux commencent à se dire que 1,60, ça fait quand même un euro assez cher. Mais c'est vrai aussi que ça a des avantages pour les touristes et pour les importateurs.
Le paradoxe dans cette histoire, c'est justement que le consommateur français, du moins, ne profite pas de cet euro fort.
Mais si, il en profite. Il en profite, mais il ne s'en rend pas compte. Bien sûr qu'il en profite. Au lieu de payer son litre de diesel à la pompe à 1,30€, en gros, il le paierait à 1,60€ ou 2€ si le cours de change de l'euro était moins élevé. Bien sûr qu'on en profite de même sur les importations de tout produit, qu'il s'agisse de téléphones ou de céréales en boîte. On paierait plus cher si l'euro était plus bas, ça c'est clair. Tout ce qui est importé est moins cher. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que ça fait concurrence à notre production nationale.
Oui, mais je crois qu'il y a eu...
La hausse des prix en France depuis un an est de 3,2%. Dans la zone euro, elle est de 3,6%. Aux États-Unis, elle est supérieure de 1%. Et elle est supérieure de 1%. Pourquoi ? Parce qu'ils encaissent le choc de la baisse du dollar, alors que nous, nous avons un choc de la hausse des prix du pétrole qui est amortie par l'euro. Donc si, on le sent tout de même.
Alors il y a une étude quand même du magazine mensuel Que Choisir qui note que sur tous les produits, par exemple high-tech ou grande consommation, aucune entreprise ne tente de faire bénéficier le consommateur européen d'un change euro-dollar favorable. C'est du moins ce que dit cette étude. Et par exemple, il y a des exemples très concrets où le consommateur européen paye des appareils deux fois plus cher que son homologue américain, alors même qu'il y a ce taux de change favorable.
Alors là, il y a une vraie spécificité sur ce segment-là du marché qui vient du fait que toutes les entreprises leaders de ce marché soit sont américaines, soit viennent de pays qui font partie de la zone dollar. Hein. Et donc, ces pays-là ont, enfin, les entreprises de ces pays-là ont tendance à considérer que un euro est égal à un dollar. Et si l'euro monte, eh bien, ça accroît leur marge et ils ne répercutent pas ça sur leurs clients. Il y a là un vrai défaut de marché. Mais c'est le cas sur l'électronique grand public en particulier. L'iPhone d'Apple, il vaut 400 dollars aux États-Unis, il vaut 400 euros en France. Hein. Donc on a bien ça, le 1 pour 1, mais ça n'est pas le cas pour tous les produits, c'est seulement le cas sur ce produit-là, pour des raisons de marché particulier.
Et si je peux me permettre de le dire, ça dépend aussi de la politique commerciale des revendeurs, parce que moi qui avais des points de fidélité avec mon portail, j'ai payé mon BlackBerry seulement 280 dollars, ce qui n'est finalement pas très élevé.
Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui gardent une marge supplémentaire?
Non, mais ça c'est le jeu, c'est le jeu des entreprises. Et dans beaucoup de domaines, si elles peuvent le faire, elles le font, c'est la règle du jeu. C'est à nous de faire en sorte que la concurrence joue pleinement. Oui, je voudrais faire deux petites remarques à propos de ce qui a été dit jusqu'à présent. La première, c'est que quand le prix du pétrole monte, c'est pour une part parce que les producteurs de pétrole veulent compenser la baisse du dollar sur les marchés de change et qu'ils veulent compenser dans une certaine mesure la perte qu'ils font sur leurs avoirs en dollars et sur leurs recettes en dollars. Et ce n'est que le supplément qui résulte de l'offre et de la demande ou de ce qu'on appelle la spéculation, c'est-à-dire la part de l'offre et de la demande qui est en prévision de difficultés futures. Ma deuxième remarque, ça a été évoqué brièvement en passant, c'est que dans les pays où le taux de change est surélevé, cela dispense la Banque centrale de relever davantage ses taux d'intérêt. Donc peut-être les consommateurs français ou européens souffrent de la surévaluation du dollar, mais si l'euro baissait, nous sommes déjà dans un environnement inflationniste, comme il a été dit à l'instant, et le jeu normal de la Banque centrale européenne ou de la Banque d'Angleterre, on parle toujours de la BCE, mais la Banque d'Angleterre pratique des taux encore plus élevés, serait de relever davantage. Et si actuellement...
Alors qu'ils sont déjà assez élevés,
la banque... Mais non, ils ne sont pas élevés. Vous avez oublié que...
Vis-à-vis de la Fed, ils sont élevés.
Oui mais la Fed a relevé ses taux d'intérêt. C'est ce qui a déclenché, d'ailleurs, le retournement du marché hypothécaire aux États-Unis. Et si elle les rebaisse à l'heure actuelle, c'est parce qu'elle est, elle et elle seule, ce n'est pas le cas en Europe, devant le risque d'une crise systémique de son système bancaire, elle le fait pour aider les banques. Mais la logique de la politique monétaire américaine, si la crise était complètement effacée, ce serait certainement de pratiquer des taux d'intérêt plus élevés. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait la Fed juste avant que la crise éclate. Les taux d'intérêt étaient près de 5%.
Alors expliquez-nous un phénomène. Est-ce que l'inflation, de fait, ne va pas contribuer à permettre une dévaluation relative de l'euro ?
Non, puisque comme l'a dit Jean-Marc Victory, l'inflation est plus élevée ailleurs que chez nous. Dans le domaine des changes, comme l'a dit Robert Raymond, les changes ils se jouent sur des marchés. Hein. Une monnaie est demandée, achetée, vendue, et c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. Donc tout ce qui compte, c'est ce qui est relatif. Si les prix augmentent chez nous, mais qu'ils augmentent relativement plus vite ailleurs, on devient plus compétitif et notre monnaie va avoir tendance à monter, pas à baisser. Il faut bien voir qu'il y a une relation inverse entre le taux de change et l'inflation. C'est pour ça que c'est un peu absurde de se plaindre, comme on a tendance à le faire en France, à la fois que le taux de change de l'euro est fort, est trop élevé, et que l'inflation est trop élevée aussi. Encore une fois, l'inflation serait plus élevée si le taux de change ne montait pas.
Absolument.
Si nous réussissions à avoir une inflation plus basse, notre taux de change aurait tendance à monter encore plus. Mmh. Il y a une corrélation inverse entre les deux. Mmh. Or, les gens se plaignent des deux à la fois, ce qui n'a pas grand sens.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser le taux de change de l'euro, Jean-Marc Guittari ?
Il y a des mesures fondamentales de long terme et des mesures moins fondamentales de court terme. Les mesures fondamentales de long terme, c'est rééquilibrer un certain nombre de déséquilibres qui amènent à ces variations de change très importantes. Et là, il s'est passé quelque chose, moi, que je trouve personnellement terrible, c'est que ces dernières années, les États-Unis ont accumulé un déficit extérieure absolument colossale, sans précédent dans l'histoire financière. C'était évident qu'à partir d'un certain moment, ce déficit poserait des problèmes et poserait des problèmes au dollar. Ça s'est déjà passé, on l'a vu dans d'autres exemples de l'histoire, ça s'est passé dans les années 20 avec le Royaume-Uni, qui avait accumulé exactement le même type de problème. Et c'est à ce moment-là que la livre sterling, qui était la monnaie du monde, est passée au second rang au profit du dollar. Donc c'est une situation qu'on connaît déjà. Les Américains s'en sont fichus. Ils ont continué à accumuler ces déficits et la plupart de leurs partenaires s'en sont également fichus parce qu'il y avait un espèce d'équilibre où les Américains avaient des déficits, mais des déficits, ça voulait dire des excédents chez les autres et donc ça voulait dire un surcroît de croissance en Europe, en Chine, qui provenait de ces excédents. Donc on a cru qu'il y avait un système qui continuerait éternellement et qui arrangeait tout le monde. Ce système-là n'a pas duré, il est en train de tomber et le dollar avec lui. Donc si on veut éviter ce genre de variation des taux de change pénalisante finalement pour beaucoup d'acteurs, la solution c'est d'éviter en amont ces déséquilibres. Donc ça c'est le long terme, c'est le structurel. Alors ensuite à plus court terme, dans certains cas il peut y avoir des interventions des banques centrales. Et il y a beaucoup de gens qui actuellement s'excitent en France autour du thème des interventions des banques centrales. Donc à ce moment-là, les banques centrales s'efforcent de casser la spéculation, de changer les anticipations des opérateurs sur les marchés pour inverser les tendances. Et c'est ce qui s'est passé notamment, il y a des exemples alors, qui sont restés fameux, hein, c'est les accords du Plaza puis du Louvre à la fin des années 80 qui ont beaucoup marqué les esprits, notamment tous ceux qui sont persuadés qu'il doit y avoir des interventions publiques. Le problème, c'est que pour que ces interventions réussissent, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions, notamment d'accords entre les différents pays sur ce qu'il faut faire, et ensuite de moments pour être sûr de casser la tendance. Hein, quand une boule dévale une pente, ce n'est pas quand elle est à la fin de la pente qu'il faut l'arrêter, qu'il faut essayer de l'arrêter. Là, on est forcément balayé. C'est au moment où, soit avant qu'elle prenne la vitesse, soit quand elle arrive au creux pour éviter qu'elle remonte de manière inconsidérée. Ces conditions-là sont-elles remplies aujourd'hui? C'est loin d'être sûr.
Et ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une sorte de cohérence européenne et que tout le monde ait intérêt à permettre à l'euro de baisser.
Bien sûr, c'est pour ça que ce que disait Philippe tout à l'heure était tout à fait essentiel. Clairement, les Allemands n'ont pas le même intérêt pour l'instant dans cette affaire de taux de change que les Français.
Nous marquons une toute petite pause. Nous parlons ensemble avec Philippe Jürgensen, Jean-Marc Vittori et Robert Raymond de l'euro et de sa cotation.
Les académiciens de l'Institut de France s'expriment au micro de Canal Académie. Retrouvez le témoignage de François Jacob de l'Académie française dans notre médiathèque en libre écoute et libre téléchargement. François Jacob évoque sa carrière de biologiste, prix Nobel de médecine, ainsi que son entrée à l'Académie française. Un témoignage exclusif sur Canal Académie.
Nous sommes ensemble autour de cette table avec Philippe Jürgensen, Jean-Marc Vittori et Robert Raymond pour parler de l'euro. L'euro est-il trop fort? Philippe Jürgensen, vous vouliez faire une remarque sur ce qui vient d'être dit sur l'intervention ou non de la BCE.
Oui, je suis très heureux que Jean-Marc Vittori ait parlé de ce sujet parce que c'est un sujet qu'on avait beaucoup oublié. C'est vrai que les banques centrales ne sont jamais chaudes pour utiliser l'arme des interventions sur les marchés d'échange, mais à mon sens, c'est la seule dont elles disposent aujourd'hui. C'est clair que la Banque centrale européenne, la BCE, est vraiment coincée sur la question des taux d'intérêt. Elle ne peut rien faire, et d'ailleurs elle ne fait rien, mais je pense qu'elle peut difficilement les monter, évidemment, parce que tout le monde hurlera que déjà on a une croissance très faible en cours de ralentissement, c'est vraiment pas le moment de charger la barque, et elle ne peut pas non plus les baisser, puisqu'elle a une poussée inflationniste dont vous vous plaignez à l'instant, et dont s'inquiètent effectivement nos concitoyens. Donc, elle ne peut pas agir sur l'arme principale, normalement, qui sert à influencer les taux de change, qui est le taux d'intérêt directeur. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste les interventions sur les marchés d'échange, et comme vous l'avez dit, Jean-Marc, effectivement, à partir du moment où on sait choisir son timing, il faut en effet être au bon moment, à un moment où le marché hésite, où on sent un point de retournement approcher, il faut le faire le plus possible de façon concertée, et il faut agir à ce moment-là fortement, massivement, fermement. J'ajouterai quand même une petite chose qu'on ne dit jamais, c'est que intervenir, c'est très difficile quand il s'agit de défendre sa propre monnaie qui est attaquée. Parce que là, on a une limite. Une fois qu'on a dépensé toutes ses réserves de change, c'est fini, on est étranglé. Par contre, intervenir pour faire baisser sa monnaie, ça peut être sans limite. Donc, à la limite, à l'extrême, je veux dire, la Banque Centrale Européenne pourrait même intervenir tout seul elle a de quoi le faire jusqu'à ce que les marchés soient convaincus qu'il faut revenir à un cours de change euro-dollar un peu plus raisonnable. Un peu plus raisonnable, ça ne veut quand même pas dire très bas, parce qu'en effet, il faut que les Américains rééquilibrent leur balance commerciale, qui garde un déficit colossal. Et si le dollar remontait trop, ils ne pourraient pas redresser ce déficit, qui est de 6 ou 7 points de PIB. Enfin, c'est énorme, c'est beaucoup plus que notre propre déficit.
Robert Raymond ?
Oui, je pense qu'il faudrait faire l'inventaire de tout ce qu'il est possible de réaliser pour modifier les taux de change. Et concentrons-nous, puisque c'est le thème de l'émission, sur la relation entre l'euro et le dollar. Il y a au fond deux types d'actions que peuvent prendre les pouvoirs publics et les banques centrales. La première action, c'est la parole couronnée, le cas échéant, par des interventions. C'est-à-dire que les politiques ou les banques centrales, par des déclarations, peuvent aller contre le sentiment du marché et dire « nous voulons que le dollar se renforce, nous voulons que l'euro baisse, c'est notre intérêt ». Et si le marché n'est pas de cet avis, les banques centrales peuvent en effet ajouter des interventions. Mais ne nous faisons pas d'illusions. De mon point de vue, ces interventions n'auront de conséquences que si, par ailleurs, les raisons qui faisaient que le marché veut se séparer du dollar et accumuler des euros se modifient elles-mêmes de façon fondamentale. Et pour cela, on est ramené aux mesures de politique économique et monétaire. Et là, elles sont de deux ordres, il y a deux bras armés, pour réduire l'absorption des États-Unis, c'est-à-dire leur déficit commercial extérieur, qui n'est plus aussi facilement financé par des mouvements de capitaux. Il faut utiliser l'arme budgétaire ou il faut que la Fed relève ses taux d'intérêt. Alors, le budget américain, déjà, marque un certain degré de rééquilibrage, puisque le déficit n'est plus, si je comprends bien, que de 2,5 à 3% du PIB. Il est allé au-dessus de 4% du PIB. Et compte tenu de la taille des États-Unis, ça représente beaucoup de dollars répandus dans le monde. Quant à la Banque fédérale, comme j'ai dit tout à l'heure, momentanément, elle est paralysée par la nécessité d'éviter l'effondrement de son système bancaire. Et elle y parvient d'ailleurs avec un certain succès. Et je suis sûr qu'elle évitera cela, mais elle est elle aussi paralysée. Pour reprendre la formule de Philippe Jürgensen tout à l'heure, en matière de taux d'intérêt. Quant à la Banque centrale européenne, elle vit dans un environnement inflationniste qui, je crois, ne lui plaît pas, puisqu'elle a un objectif de maintien de la hausse des prix, disons, autour de 2%.
Oui.
Et nous sommes, instantanément, nous sommes plutôt à 3,5%. Mais évidemment, c'est instantanément, il y a la perspective d'un certain repli qui ne sera cependant pas suffisant pour revenir à 2%. Et d'un autre côté, elle se rendrait vraiment très impopulaire en relevant les taux d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'inflation, donc elle est également un peu paralysée de ce côté. Alors, reste l'arme budgétaire en Europe. Finalement, en Europe, en moyenne, dans la zone euro, les budgets, globalement, le budget des pays de la zone euro est à peu près à l'équilibre, pas très loin de l'équilibre. Il y a quelques pays qui se distinguent des autres. Nous sommes l'un de ces pays, malheureusement. Mais on voit que les outils ou le degré de liberté de manœuvre dont disposent aussi bien les banques centrales que les gouvernements avec l'arme budgétaire sont assez limités. Et alors, il y a beaucoup d'autres inconnus. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle aux États-Unis, d'un changement d'administration. On ne sait pas ce qui se passera. Puis alors, il ne faut pas oublier le reste du monde. L'Asie pourrait faire aussi quelque chose. Par exemple, on le dit depuis longtemps, en laissant se relever davantage la monnaie chinoise. Cela dit, les pays asiatiques sont encore des pays très pauvres en majorité et ils n'ont aucune raison politique interne de restreindre la consommation de leur population. Au contraire, il y a un appétit des Indiens pauvres et des Chinois pauvres, et ça s'applique aussi à beaucoup d'autres pays d'Asie ou d'autres pays émergents, pour produire et consommer davantage. Et donc, je ne vois pas ces pays appliquer une politique trop restrictive pour l'instant. Ils sont par ailleurs très à l'aise avec leurs réserves de change et rien n'exerce une pression très forte chez eux, sauf peut-être l'apparition chez eux aussi de l'inflation.
Pour nous concentrer sur le cas des États-Unis, est-ce que les États-Unis ont tout intérêt à garder leur billet vert aussi bas? Est-ce que, comme l'avait dit John Connally il y a plus de 30 ans, c'est notre monnaie, c'est votre problème, selon son expression désormais consacrée? Jean-Marc Vittori, qu'est-ce que vous en pensez?
Clairement, la faiblesse du dollar, pour l'instant, ne gêne pas les Américains. Elle pourrait les gêner si elle se poursuivait et si les pressions inflationnistes se renforçaient à ce moment-là. Là, ça pourrait devenir un problème. Pour l'instant, ça n'en est pas un. Ça pourrait aussi, en revanche, devenir un problème. Et on le sent, il y a toute une série de petits indices sur les marchés financiers si les étrangers ne voulaient plus financer les États-Unis. On est dans un monde qui est même paradoxal. On ne s'en rend pas assez compte. On ne le dit pas assez. On est dans un monde où le pays le plus riche emprunte à tous les autres et notamment à certains des plus pauvres. On est dans cette situation depuis des années. C'est une situation qui est aberrante. Normalement, c'est les riches qui devraient prêter aux pauvres pour favoriser leur développement. Là, c'est les pauvres qui prêtent aux riches pour financer leur consommation. Ce système-là ne peut pas durer éternellement. Il y a un moment, mais il y a un vieil adage d'économiste qui dit « say what, say when, but never say both ». Dites quoi, dites quand, mais ne dites jamais les deux à la fois. Donc, il y a un moment où les investisseurs étrangers qui placent leur argent encore massivement aux États-Unis, c'est des centaines de milliards de dollars par an, il y a un moment où ces investisseurs en auront marre et douteront et se diront de toute façon, on va placer notre argent aux États-Unis avec des taux d'intérêt qui sont faibles et en plus avec la perspective, un jour ou l'autre, d'une baisse très forte du dollar. Donc, on a un rendement qui est très faible et on va nous rendre notre argent en monnaie de singe. Et donc ce jour-là, les Américains risquent d'être dans une situation beaucoup plus difficile, mais le choc sera brutal.
Et est-ce que du coup, ça pourrait se faire en faveur de l'euro ? Est-ce que ce moment-là serait favorable à la zone euro ?
À quoi dans la zone euro ?
À la monnaie au moins.
Pas tant à sa hausse ou à sa baisse ?
Oui, non, là, ce ne serait pas forcément favorable à sa baisse. Mais du moins, l'euro fort aurait un sens plus symbolique et pourrait remplacer peut-être le billet vert. On en est là ?
Alors ça, c'est un autre point. C'est est-ce que les excès des États-Unis vont amener le dollar, qui est le centre monétaire du monde depuis 60 ans maintenant ? Est-ce que cet équilibre-là va changer ? Ça, c'est une question tout à fait importante. Moi, j'ai tendance à croire que l'euro a un certain nombre de faiblesses pour remplacer le dollar. Une faiblesse majeure, c'est que pour qu'une monnaie soit une monnaie mondiale, il faut qu'il y ait un énorme gisement de titres financiers qui soit très homogène. Ce que les experts appellent un marché qui soit à la fois très liquide et très profond. Très liquide, ça veut dire qu'on peut faire des échanges très rapidement. Et très profond, ça veut dire qu'on peut échanger 10 milliards pratiquement instantanément. Actuellement, en Europe, nous n'avons pas ce marché parce qu'on a des marchés qui restent très fragmentés. Les obligations des différents États sont toutes libellées en euros, mais elles ne sont pas pareilles. Une obligation de l'État allemand, ça n'est pas pareil qu'une obligation de l'État italien. L'État allemand, on est sûr qu'il va rembourser. L'État italien, il y a des petits doutes qui se traduisent par le fait que l'État doit payer un taux d'intérêt plus élevé. Et donc, celui qui veut échanger massivement ses titres en dollars contre des titres en euros n'aurait pas un marché assez profond, assez liquide pour pouvoir faire des opérations instantanément. Or, vu l'ampleur des marchés financiers, vu l'ampleur des transactions, c'est une condition absolument nécessaire pour une zone, qu'une monnaie devienne une monnaie mondiale, c'est qu'elle ait cette profondeur, cette liquidité de marché qu'elle n'a pas pour l'instant en ce qui concerne l'euro.
Philippe Jürgensen, est-ce que l'euro fort peut avoir ses conséquences de devenir une monnaie plus mondiale encore ?
Oui, moi, je serais un peu plus optimiste que ça, effectivement, sur l'avenir de l'euro. C'est tout à fait vrai que les émissions publiques sont trop fragmentées. Et là, on porte encore le poids du refus d'un fédéralisme européen. On n'a pas de budget européen. On a effectivement une addition de micro-budgets. Enfin, micros, ils sont importants pour nous, mais vu à l'échelle mondiale, c'est une addition de micro-budgets. Et bien sûr, ça gêne la progression de l'euro. Cela dit, l'euro est quand même devenu en peu d'années la première monnaie pour les émissions obligataires internationales, c'est-à-dire les grands emprunts internationaux se font maintenant plus en euros qu'en dollars. C'est quand même un bouleversement auquel on ne s'attendait pas si rapidement. Il reste à faire remplir par l'euro les autres grandes fonctions d'une monnaie, être un instrument de règlement. Les échanges sont encore aujourd'hui plus souvent libellés en dollars qu'en euros, c'est incontestable, mais ça bouge pour la raison qui a été dite tout à l'heure, c'est que les pétroliers, par exemple, en ont un peu assez d'être réglés en monnaie fondante, et un certain nombre d'entre eux, maintenant, commencent à demander à être payés en euros, à déterminer leur cours par rapport à l'euro. Et puis, bien entendu, comme réserve de valeur, autre fonction de la monnaie, il est clair aujourd'hui que ceux qui détiennent leurs réserves très largement en dollars, comme les Chinois, les Japonais et les autres, ils ont quand même perdu beaucoup d'argent, si on le mesure, dans leur propre devise ou en euros. Et donc, un certain nombre d'entre eux, là aussi, commencent à se dire que ce serait peut-être pas mal de passer du dollar à l'euro. Je pense que cette évolution va se faire petit à petit et donc l'euro fort, évidemment, rend notre monnaie plus crédible, plus attirante. Ça va forcément se traduire dans la réalité, mais petit à petit. Ça aura d'ailleurs des conséquences en partie favorables pour nous. Ça nous permettra d'être un peu plus comme les Américains, indifférents au taux de change. Vous avez rappelé tout à l'heure, Priscille, un mot effectivement tout à fait évocateur. Il y en a un autre qui est qu'on demande à un gouverneur de banque centrale américain, mais combien vaut un dollar aujourd'hui? Il dit un dollar, ça vaut un dollar. Pour nous, de plus en plus, un euro, ça ne vaudra pas 60 cents américains, 10 yuan, etc. Ça vaudra un euro parce que ce sera la monnaie de référence mondiale. Mais pour ça, il y a encore un petit bout de temps. Et puis, ça aura des avantages, ça a aussi des inconvénients, parce qu'être le responsable d'une monnaie mondialement utilisée, ça implique aussi une grande sagesse dans la conduite de la politique monétaire, par exemple. Et on risque d'entendre les gens encore plus crier contre la rigueur de la BCE.
Mais si ça se passait demain, ça serait une catastrophe. Si ça se passait demain, ça serait une catastrophe.
Si parce ça se que passait ça d'un seul coup, oui.
Parce que ça signifierait que tous les pays qui ont actuellement d'énormes réserves en dollars les vendraient pour acheter de l'euro. Donc ça veut dire
ça
que le dollar,
favorable, oui.
Ça veut dire que le dollar s'effondrerait et ça oui. veut dire que l'euro exploserait. Et donc, tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, ça serait la même chose, mais à une échelle infiniment plus grande. Si le mouvement se passait brutalement, l'euro dépasserait en quelques mois les 2 dollars, voire les 2,50 $. Ça peut être souhaitable à certains égards. À d'autres égards, si ça se passait aujourd'hui de manière précipitée, ça serait extrêmement périlleux pour l'ensemble de l'Europe.
Ça ne peut se faire que progressivement.
Robert Raymond.
Oui, heureusement, je crois que cette panique n'aura pas lieu pour deux raisons. D'abord, parce que les autorités américaines en sont bien conscientes. On a déjà vu, par exemple, que dans le cas de tentative de prise de contrôle par des fonds souverains étrangers de certains de leurs ports, pourtant de la part d'un journaliste, puisqu'il s'agissait d'un pays du Moyen-Orient, les autorités américaines ont refusé. Et je suis sûr que si elles voyaient le dollar s'effondrer trop rapidement, elles prendraient des mesures de redressement. Donc je crois que ça ne se produira pas. Et la deuxième raison, c'est que l'économie américaine, même si monétairement elle est un peu en difficulté, est loin d'être morte. Il y a là-bas les plus grandes sociétés du monde. Et à mesure que le dollar va baisser, on trouvera beaucoup d'investisseurs dans le monde qui seront contents d'en acheter une partie, d'acheter une partie de leur capital, d'acheter des actions de Microsoft ou je ne sais quoi. Il y en a beaucoup d'autres, Boeing et ainsi de suite. Et il y en a beaucoup dans tous les domaines. Et donc, le marché trouve toujours un point d'équilibre. Pour l'instant, ce point d'équilibre est un peu en baisse pour les raisons macroéconomiques dont on a longuement discuté. Je crois qu'on a donné à peu près tous les arguments. Mais je ne crois pas à l'effondrement. Et en tout cas, il n'est pas souhaitable. Non seulement, il serait très pénible à vivre pour les Européens, parce qu'alors, si vous plaignez que l'euro est un peu surévalué, ce serait une tragédie. Mais en plus, si la Chine, l'Inde et quelques autres pays émergents étaient ruinés dans un délai rapide, ça changerait aussi la face du monde. À bien d'autres points de vue. Et donc, il faut espérer que tout ça s'ajustera de façon relativement souple.
On peut imaginer.
Parce que ça, c'est un aspect, qui est important à souligner. Beaucoup d'économistes disent, mais en fait, le problème, ce n'est pas le cours euro-dollar, c'est le cours euro-yuan, euro-yen, etc. Parce que ceux qui nous font une concurrence victorieuse sur les marchés, ce n'est pas les Américains. Malgré leur dollar faible, c'est beaucoup plus les Chinois, les Philippins, les Indonésiens, etc. Et toutes ces monnaies-là, qui sont plus ou moins ancrées sur le dollar, sont évidemment très sous-évaluées. Alors les Chinois ont fini par accepter de laisser leur yuan monter un petit peu. Il a monté de 18% en 3 ans. Mais c'est pour ça que je pense personnellement que les interventions restent un sujet. Il ne faut pas oublier que si le yuan évolue de cette façon-là, s'il n'est pas poussé à toute vitesse vers le haut par les marchés, ce qui devrait se produire s'il était librement coté sur les marchés, pourquoi il ne monte pas vers le ciel? Tout simplement parce que les fils du ciel, les Chinois, passent leur temps à intervenir. Eux, ils n'hésitent pas à intervenir pour maintenir l'ancrage, le pegging du yuan sur le dollar. Donc, on est face à des concurrents qui, eux, maintiennent leur monnaie artificiellement basse par des interventions. Et nous, nous n'osons pas faire la même chose de notre côté. Je trouve que ça pose quand même un problème. Donc, c'est plus cette relation euro-monnaie asiatique que la relation euro-dollar, en réalité, probablement, qui pose problème.
On va peut-être arriver à un système polycentrique où il n'y a pas juste, justement, comme vous dites, ce face-à-face euro-dollar, mais d'autres monnaies qui puissent équilibrer un petit peu.
Alors ça serait passionnant. Ça serait passionnant parce que ce serait la première fois de l'histoire. Jusqu'à présent, il y a toujours eu une monnaie dominante. Alors ça a été l'or, ça a été la livre sterling, ça a été le dollar. On n'a jamais eu un monde qui dure avec plusieurs monnaies, avec un système polycentrique. Mais peut-être qu'on ira un jour ou l'autre. C'est difficile à imaginer pour l'instant.
Oui, je partage tout à fait l'avis exprimé par notre ami Vittori. Tout à fait, parce que si un homme aime également deux femmes... Il est assez rare de voir qu'ils se partagent également entre les deux. Il y a toujours une préférée. Et voilà, quand on a le choix entre deux monnaies, il y a toujours une qui, à un instant donné, paraît meilleure que l'autre. Donc il faut se méfier du polycentrisme. Je crois qu'il n'est viable qu'avec un effort considérable et permanent de coordination des politiques, à la fois budgétaires et monétaires, des entités concernées. Et donc ça suppose qu'il y a un dialogue transatlantique là-dessus qui aille très loin, et peut-être un dialogue transpacifique aussi. C'est-à-dire que c'est assez complexe, c'est nous faire avancer vers le gouvernement mondial, qui est notre rêve à tous, mais qui n'est peut-être pas pour demain.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse. Je rappelle que nous étions en compagnie de Philippe Jurgensen, Jean-Marc Vittori et Robert Raymond. Je signale à nos auditeurs que vous pourrez trouver sur Canal Académie plusieurs autres émissions d'économie et en compagnie de Philippe Jurgensen. Bonne journée à tous.